c'est ma prière que vous puissiez recevoir ce message. Il y a tellement de choses que nous savons déjà, et tellement de choses que nous savons, mais en fait, nous ne les savons pas, ou nous ne les avons pas forcément comprises. Et c'est un peu le cas par rapport à la justification par la foi. La justification, c'est un terme théologique, mais c'est un terme que l'apôtre Paul utilise. C'est un terme que l'on trouve dans la parole. Ce n'est pas seulement les théologiens de notre temps qui utilisent ce terme de justification. La justification, c'est le fait au tribunal de Dieu d'être déclaré juste, donc d'être justifié, c'est-à-dire c'est le fait d'être innocenté de nos péchés, bien que nous ne soyons pas innocents. C'est ça qui est terrible dans la justification par la foi en Jésus-Christ. Quand on dit la justification par la foi, ça sous-entend dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la foi en n'importe qui ou n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc la justification, c'est ce qui se passe au moment de notre conversion, au moment où le Saint-Esprit régénère notre esprit. C'est quand on reçoit le Seigneur. Voilà ce que signifie ce terme, la justification, être juste, être justifié. Donc quand on dit qu'on est juste, ce n'est pas que nous, par nous-mêmes, nous sommes justes, mais c'est que nous sommes déclarés justes. Il faut vraiment bien comprendre ces choses-là. Et la justification, eh bien justement, elle ne s'obtient que par la foi et pas par autre chose. Et pour nous, normalement, on le sait aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été très clair. Durant tout l'Ancien Testament, les gens comprenaient de plus en plus, Dieu se révélait de plus en plus pour que le peuple comprenne qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de justification. Et puis, depuis Jésus, Jésus a justifié par son sacrifice à la croix, il est mort pour nos péchés. Et puis après Jésus, eh bien, nous devrions comprendre ce que signifie être justifié, puisque c'est fait. Mais on se rend compte que même pour les gens de l'Église primitive, donc la première Église, c'était pas si évident que ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes dans le livre de Galates, le passage de Galates 2, 11 à 14, c'est cette histoire, on appelle ça l'incident d'Antioche, parce que ça se passe à Antioche, et c'est quand Pierre, qui mangeait avec les non-juifs convertis, sans souci, donc il mangeait même de la nourriture considérée comme impure par les juifs, ça ne lui faisait aucun souci, il avait compris que ça n'était plus nécessaire, que ses œuvres de la loi n'étaient plus nécessaires, mais quand des juifs de Jérusalem, légalistes, sont arrivés à Antioche, et notre Pierre, il s'est taillé, il s'est caché, il a laissé les non-juifs de côté, puis il est allé avec les juifs. Et en fait, il était dans un compromis, en fait, il était dans un double discours, et Paul a dû intervenir. Mais ça montre, le but n'est pas de jeter la pierre à Pierre, ni à Barnabas qui s'est laissé entraîner dans ce double jeu, mais ça montre que les choses n'étaient encore pas tout à fait claires, ou si elles étaient claires, les gens n'avaient encore pas cette assurance. Mais qui est-ce que je suis une fois que je suis justifié? Quelle est mon identité? Il y avait une espèce de flottement, et je crois que ce n'est pas très, très, très différent aujourd'hui. Malheureusement. Alors on va essayer de réajuster un tout petit peu. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que être juif, puisque Paul s'adresse aux chrétiens juifs d'origine de Galates, dans ce passage que nous allons voir, être juif n'est pas une garantie de salut. Ce qui justifie, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ et surtout, la justification consiste en une transformation. Voilà le principe. Si vous avez compris tout ça, vous êtes bien. Mais ça reste peut-être un peu dans la tête. On va essayer de le faire descendre un peu plus. On va essayer de l'intégrer. Alors voilà, Paul raconte ce qui s'est passé à Antioche avec Pierre pour essayer de dire aux juifs chrétiens de Galates qu'il n'est pas nécessaire de continuer les œuvres de la loi, donc tous les rites, les rituels, comme la circoncision. Et il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre ou un serviteur du péché ? Loin de là ! Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Waouh ! Ça, c'est un exposé de doctrine chrétienne. Le cœur de la doctrine de la foi chrétienne se trouve, pas seulement, mais se trouve dans ce passage. Mais si on reprend le début, le verset 15, quand Paul dit « Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. » En fait, il est en train de prendre tout le monde avec lui. Il est en train de dire « On est tous d'accord. On est tous d'accord que nous sommes différents des autres peuples. » Et c'est pas faux, c'est juste. Parce que c'est quoi la spécificité du peuple juif, ce qui était connu comme spécifique ? Eh bien, c'était la loi. Le peuple juif a la loi. Et cette loi, elle commence par les 10 commandements qui affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est le Dieu du peuple juif, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Et ensuite, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne te feras pas d'idole, de statue taillée devant ma face, etc., etc. Tout ça, c'est spécifique au peuple juif. Et à ces 10 commandements, il y a une quantité, plus de 600 règles qui ont été ajoutées à cette règle, à ces 10 commandements. En fait, ce sont des articles de loi qui ont été donnés comme directives spirituelles, morale, éthique et sociale. Toutefois, depuis Jésus, tout ce qui a trait aux rites ou aux œuvres de la loi ne sont plus nécessaires. Manger kasher n'est plus nécessaire. Ne pas se mélanger entre juifs et non-juifs n'est plus nécessaire. Se faire circoncire n'est plus nécessaire parce que Jésus a accompli la loi. Donc cette loi, elle demeure, mais elle est accomplie. Donc les rites ne sont plus nécessaires, mais ces principes demeurent. Les principes spirituels, éthiques, sociaux, moraux, bien sûr que ça demeure. Alors c'est quoi cette loi ? Là, on fait juste un petit excursus, on vient juste en arrière. Marc 12, que dit Jésus à propos de la loi ? Il y a un scribe, Marc 12, les versets 28 à 30, il y a les gens, vous savez, ils essayent de pousser Jésus pour voir où est la faille. Et puis ben, ma foi, c'est lui qui répondait tellement bien que ça confondait les gens. Puis il y en a encore un qui essaye de le titiller un peu. Et il vient, il a entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Ce scribe s'approcha de lui et demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël. » Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et Paul y reprend ce passage dans Galates 5 au verset 14. Il va dire, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la loi demeure, mais sans les œuvres de la loi. Alors bien sûr, le peuple juif qui a reçu cette loi est un peuple tout à fait spécifique. Mais ce n'est pas pour autant que cette loi les sauve. Et c'est ce que Paul est en train de démontrer. Il dit, mais nous qui sommes différents de tous ces peuples, eh bien, au verset 16, au milieu du verset 16, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Ça veut dire, mais nous aussi, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de son sacrifice, que tout ce que nous avons comme héritage en tant que juifs n'est pas suffisant, ne joue pas. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc il est en train de leur dire, en quelque sorte, mais arrêtez d'imposer la circoncision, puisque ce n'est pas ça qui sauve. Ça n'est plus nécessaire. La circoncision, à quoi elle servait, la circoncision? La circoncision, c'était un signe d'appartenance. Ça rappelait au peuple juif qu'il appartenait au Dieu unique. Cette circoncision, elle est toujours valable aujourd'hui, mais pas de la même façon, pas sous la même forme. Toute cette loi devait nous apporter où? À la circoncision du cœur. C'est lorsque notre cœur est circoncis, lorsqu'il y a eu une transformation, que nous avons reçu le Seigneur et que tout à coup notre caractère change comme celui du Seigneur, que nous avons notre cœur circoncis et que nous avons ce sentiment d'appartenance parce que le Saint-Esprit a pu venir nous visiter, nous attester que nous sommes fils et filles de Dieu, enfants de Dieu. Alors, pour nous, ce principe est le même. T'es peut-être né dans une famille chrétienne. Ou peut-être que tu adhères aux valeurs de base de notre société judéo-chrétienne. Je ne parle pas des mœurs qui sont à l'envers et du monde qui ne va pas. Hein? Mais nous sommes dans une société judéo-chrétienne. Donc nous nous sommes appuyés sur ces 10 commandements. Nous nous sommes appuyés sur la loi de Dieu. Il n'y a qu'à voir toutes nos assurances sociales, par exemple. Mais ce n'est pas parce que nous faisons partie de cette société, que nous adhérons à cette société, ou que nous sommes nés dans une famille chrétienne, que nous sommes justifiés. En clair, ni la naissance, ni les œuvres, ni les rites, ni les rituels, ni les actes de consécration ne peuvent nous justifier. Parce que la justification, c'est un acte juridico-légal. Le pardon des péchés, il ne s'effectue qu'au tribunal de Christ. Et si nous avons reçu Christ, nous avons passé par ce tribunal, nous avons été innocentés et c'est fait. Mais c'est Christ qui a payé pour nous. Nous ne pouvons rien ni ajouter. Nous avons juste besoin de la foi en Jésus-Christ. Alors, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, peut-être que vous savez tout ça, et puis vous avez l'impression que c'est de la répétition. Mais il y a des fois où c'est nécessaire de se le rappeler. Parce que Paul, dans la suite du texte, là, à partir du verset 17, il dit que même quand on a reçu la foi en Jésus-Christ, lorsqu'on a reçu le pardon des péchés, par la foi, il faut se garder de l'auto-sabotage. Eh oui. Et je pense que nous sommes à peu près tous concernés, malheureusement. Oula, qui c'est qui a dit Amen? Oh là là, il y a un Amen qu'il faut retirer là. Nous sommes tous concernés par l'auto-sabotage. C'est grave. Mais si on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que cet auto-sabotage, on peut intervenir. Alors que dit Paul au verset 17? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, c'est-à-dire pas par la loi, pas par les œuvres, pas par le mérite ou je ne sais quoi, mais juste par la foi que je suis pardonnée. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, mais puisque je pêche encore, alors que j'ai déjà été justifié. Donc, puisque je continue à pécher, mais que Christ me considère comme innocenté, comme juste, est-ce que Jésus est un serviteur du péché? Est-ce qu'il cautionne le péché? Eh bien, certes non. Loin de là. Pas du tout. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, les Galates, ils comprennent pas. En fait, la question, mes amis, la question n'est pas d'être parfait pour être sauvé ou pour mériter son salut. La question n'est pas d'essayer d'en faire toujours plus pour avoir la faveur de Dieu. C'est pas ça la question. Bien sûr que nous continuons encore de pécher malgré le fait que nous sommes justifiés. Mais le problème que Paul est en train de soulever, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as trouvé la liberté et que volontairement tu retournes dans ta prison, tu es un transgresseur. C'est là que tu es coupable, c'est là que tu es fautif. Quand tu as été libéré de la loi, quand tu comprends que tu n'as plus besoin de ses œuvres, quand tu comprends que Jésus a accompli ses œuvres et que tu y retournes, mais tu es grandement dans l'erreur. Là, tu as un problème, tu as un vrai problème de péché. Parce que tu reconstruis ce que tu as détruit. Paul dit, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Donc si tu reconstruis tout un système pour mériter les choses de Dieu, pour essayer d'être digne devant lui, pour te dire, mais ce que j'ai, quand tu te dis, mais ce que j'ai fait est trop grave pour être pardonné. Tu es en train de reconstruire ta prison. Et c'est en ça que tu es coupable. Prenons un exemple. Dernièrement, j'étais de passage chez mes parents. Mes parents, ils ont un grand jardin et ils ont des plates-bandes et c'est vraiment leur truc, c'est leur passion. Même qu'ils avancent en âge, avec leur faible force, ils continuent à planter, à cultiver, etc. Et puis ma maman a acheté une pivoine. Vous savez ce que c'est une pivoine? C'est une magnifique fleur avec le bouton. Quand elle est en bouton, il est en forme d'une sphère parfaite. Et quand elle s'ouvre, c'est une fleur rose pleine de pétales qui s'épanouit. Et c'est un bouquet de fleurs, c'est juste magnifique. Et elle a des racines assez longues. Il faut la planter à au moins 40 cm de profondeur. Le pot, il était à 40, enfin peut-être 30 cm. Il fallait 40 cm de profondeur. Mon père a commencé à creuser le trou, mais il s'est rapidement heurté. Il était peut-être à 20 cm à des cailloux qui étaient tellement serrés les uns contre les autres. Et serré dans la terre, que ça a été compliqué. Il a dû gratter la terre, il a dû enfiler ses outils, essayer de déloger ses cailloux. Et un à un, il a enlevé des grosses pierres qui freinaient la route. Alors vous aviez un tas de terre bien mis sur une espèce de toile, et puis un seau avec les cailloux dedans. Et ma maman a pu planter sa pivoine. Mais au moment de remettre la terre, si elle avait mis les cailloux avec la terre, est-ce que les cailloux n'auraient pas écrasé les racines? Est-ce que les racines auraient pu s'épanouir? Est-ce que les racines auraient pu aller assez profondément pour chercher l'eau quand elle en a besoin? Qu'est-ce qui se serait passé en temps de sécheresse ou en temps de fort vent si ces racines n'avaient pas pu aller chercher leurs nutriments à cause de ces cailloux qui leur freine la route? Est-ce que ma maman n'aurait pas été coupable? Rassurez-vous, les cailloux ne sont pas dans le trou. Et la pivoine va pouvoir s'épanouir. Mais c'est la même chose, mes amis. C'est la même chose quand on commence à aller se rajouter des choses qu'il faut faire pour Dieu, pour être passable devant Dieu. Pour obtenir quelque chose de Dieu, nous mettons des cailloux pour notre pivoine. Notre vie spirituelle ne peut pas s'épanouir quand on se met sous la loi, parce qu'on se met sous la condamnation, puis parce que la loi n'est jamais suffisante. Parce que même si tu te dis, si je prie une heure par jour, le Seigneur va m'aimer, ben quand tu auras prié une heure par jour, tu vas dire, ouais, mais ma prière, elle n'était pas géniale. Donc il faut que j'en rajoute, ou que je fasse autrement, etc. Tu te places sous la condamnation, tu es coupable de reconstruire ce que tu as détruit. Tu es en train de mettre des cailloux autour de ta pivoine. Alors comment comprendre et quelle est l'espèce de déclic dont nous avons besoin pour comprendre ce qu'est la justification par la foi, pour ne pas avoir ce réflexe d'aller essayer de faire des choses pour mériter des choses de la part de Dieu ou pour être totalement pardonné. Eh bien, Paul, il commence à le dire ici, ou même c'est carrément le principe, au verset 19, il dit « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Il dit « C'est à la loi que je suis mort à la loi. » Aïe, 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 aïe. Des fois, Paul, il écrit des choses qui font presque mal à la tête. Ou « C'est pour la loi que je suis mort à la loi. » C'est à la loi que je suis mort à la loi. Ça veut dire, en fait, avec ce qui s'est passé en moi, la loi me considère comme mort. Un mort, vous pouvez lui adresser la parole, vous pouvez le secouer un peu, il ne va pas bouger, il ne va pas parler, il ne va pas réagir, il ne va rien se passer. Donc il est en train de dire, mais à cause de cette justification, pour la loi, c'est comme si je suis mort. Donc elle n'a plus aucune prise pour moi. Elle n'a aucune prise sur moi. Elle ne peut plus rien faire, puisque je suis mort pour cette loi, à cette loi. Et pourquoi est-ce que je suis mort à cette loi? Afin de vivre pour Dieu. Et juste après, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça ne vous rappelle pas le début de l'épître aux Galates pour ceux qui l'ont lu ou qui étaient là il y a 2 semaines? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ce que je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps, dans ma réalité, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vivre autrement, pour ne plus avoir ce réflexe de mettre ses pierres dans la cavité, eh bien, il faut comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une transformation. Il s'est passé une transformation pour que les œuvres de la loi me considèrent comme mort, comme morte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est parce que par la foi, lorsque Jésus, il y a 2000 ans, a été crucifié, par la foi, j'ai été crucifié avec lui. C'est-à-dire que dans la compréhension du Père, lorsque Christ était crucifié, tous ceux qui, à un moment donné, même après coup, mettent leur foi en Jésus, et bien c'est comme si, rétroactivement, ils étaient crucifiés avec Jésus. Donc quand on est crucifié, on meurt. J'ai été crucifié avec Jésus, par la foi. Donc la condamnation, elle est déjà tombée sur moi. C'est déjà fait. Sauf que c'est Jésus qui l'a ressenti. C'est lui qui l'a éprouvé. C'est lui qui l'a expérimenté. Il m'a épargné. Mais moi, j'étais dans son corps quand il a été crucifié. Cette chose-là, elle a eu lieu. Elle est inscrite dans le ciel. C'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Alors comment comprendre? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a 2 mois. Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est deux fois le même moi? Non. Non. Il s'agit de la même personne. Ce n'est plus Flo, ce n'est plus moi, Flo, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi, Flo. C'est le même Flo, c'est la même Flo. C'est la même personne, mais ce n'est pas le même moi. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a un moi qui est mort. Et c'est qui, ce moi qui est mort? C'est le moi mort. Vous avez compris? C'est... Pardonnez-moi l'expression, c'est ma nature morte. C'est moi en tant que morte, tant que je suis séparée de Dieu. Avant d'avoir donné notre vie au Seigneur, nous sommes en mort spirituelle. Nous sommes dans notre nature de péché. Et tout ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait agir, est gouverné par notre nature de péché. C'est le moi mort spirituellement, c'est le moi mort séparé de Dieu, c'est le moi sous la condamnation de Dieu. Eh bien, ce n'est plus ce moi qui vit. Ce moi mort est mort. C'est fait, c'est fini. C'est Christ qui vit en moi. Quel est ce moi qui vit? C'est celui qui est ressuscité. Parce que si j'ai été crucifié avec Christ, je suis aussi ressuscité avec lui. C'est le moi vivant. C'est le moi qui a été débarrassé du péché. C'est le moi qui vit la vie de Christ ou Christ vit la vie de ce moi. En fait, il est question de l'union avec Christ. Paul, il parle souvent, il utilise souvent cette expression « en Christ ». En Christ. En fait, il y a deux aspects dans tout ça. Le premier aspect, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'aspect légal. Légalement, la condamnation, elle a eu lieu et j'ai été justifié. Et le deuxième aspect, c'est Christ qui vit en moi, c'est l'aspect relationnel. C'est la restauration de la relation. En réalité, il s'est passé un avant et un après. Et il s'est passé une transformation de la mort, je suis passée à la vie. Voilà ce qui se passe lorsqu'on se convertit, lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit régénère notre esprit, lorsqu'il nous atteste que tout ce qui concerne le Seigneur est vrai et que nous lui disons oui et que nous le recevons et que notre vie commence à changer, que nous voulons adopter le caractère du Seigneur. Même si nous échouons et puis nous, ça va pas à la vitesse que nous aimerions, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est fait. Nous sommes transformés. Nous avons retrouvé notre identité initiale, notre identité d'enfant de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions des enfants de colère, les enfants du diable, et nous redevenons les enfants de Dieu. Il y a eu une transformation. Et on ne peut rien y ajouter. Les œuvres de la loi, c'est tout autre chose. Mais si on comprend cette identité, alors ça devrait nous aider. Ça devrait nous aider, mais en fait, je ne suis plus la même. Et le Seigneur m'a tellement aimé, il s'est tellement donné pour moi, que c'est là-dessus que je dois m'appuyer. C'est sur son sacrifice, sur son amour, sur sa grâce, sur son pardon. Ce n'est pas sur des œuvres que je pourrais faire et qui seront jamais suffisantes. Ce n'est pas ça. Mais la transformation, elle a eu lieu. Alors, on se dit, mais même la suite du verset, c'est un peu difficile. Quand il dit, ce que je vis maintenant dans la chair, donc dans mon corps, c'est-à-dire dans ma réalité, dans mon quotidien, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que... tout ce qu'on va vivre maintenant, ça va justement être parfait? Non. Non. Mais ça veut dire tout l'aspect positif, tout ce que je vis de bien. Par exemple, mon caractère qui est en train de se transformer, quand j'use de patience avec une personne un peu difficile, quand j'use de générosité, et que je commence à ressentir des choses, quand j'aime, quand je suis OK, qu'il y a un affront qui me passe dessus et je ne rends pas, quand je me retiens, que je réussis à ne pas me justifier, quand je commence à mettre en pratique tout ce que la parole dit, quand j'use de bienveillance, de patience, de bonté, de grâce, etc., quand je passe un temps de prière qui est bénéfique, où je sens cette relation avec le Seigneur. Toutes ces choses-là, je les vis dans la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire que j'expérimente la vie de Christ en moi. J'expérimente ces sentiments de plus en plus. Quand tout à coup, on se met à avoir de la compassion pour quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Quand tu commences à te lever au milieu de la nuit pour aller prier pour quelqu'un, prier pour des chrétiens persécutés que tu ne connais même pas, que tu ne verras jamais, si ce n'est là en haut. Tu es en train de vivre ta vie dans la foi au Fils de Dieu. Tu es en train de plus en plus expérimenter la vie de Christ en toi. C'est le Christ qui commence à te pousser à faire des choses, à penser des choses, à avoir un cœur pour des personnes. C'est lui qui commence à te laver. Et c'est ça de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Mais il y a aussi toutes les choses négatives, les choses difficiles, tous nos échecs, toutes nos faillites. Chaque fois que tu blesses quelqu'un, que tu as été maladroit, ou que justement tu as manqué de prière, puis tu te rends compte qu'en fait tu aurais pu avoir des résultats, puis ces résultats ne sont pas là parce que tu n'étais pas au rendez-vous. Eh bien, ces choses-là, je les vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire qu'à chaque échec, au lieu de me flageller, au lieu de me dire « il faut que je prie plus », je vais déjà demander pardon au Seigneur, puis je vais lui dire « mais là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a un comment faire que je n'ai pas compris parce que ça devient une loi pour moi, la prière. Alors que c'est une relation, que c'est une discussion, que c'est une communication, que c'est un cœur à cœur. Et j'aimerais que tu m'enseignes. » Et là, les choses commencent à changer. Chaque fois que tu te sens méprisable, chaque fois que tu te sens indigne, chaque fois que tu te rends compte que tu es à ras des pâquerettes, que tu es au fond du creuset, que tu te sens laid, sale, dans le péché, c'est là que tu te dis ce que je vis. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est là que tu dis, OK Seigneur, tu fais tout faux, mais je reçois ton pardon parce que tu m'as déjà pardonné. Lave-moi. Merci, parce que je sais que tu le fais. Accorde-moi une parole qui va m'encourager. Parce qu'on est lavé par l'eau de la parole. Viens rafraîchir mon âme. Viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi faim et soif de toi. Accorde-moi un esprit de révélation qui me fasse comprendre ta parole pour qu'elle me transforme, pour que je puisse aller plus loin avec toi, pour que je puisse te connaître vraiment comme tu es. Et Seigneur, merci parce que je suis tellement indigne et pourtant tu m'utilises. Je suis tellement incapable et pourtant tu m'utilises. Seigneur, ce n'est pas des gens parfaits que tu utilises. Tu es tellement bon, tu m'as tellement aimé. Ça, c'est remettre de la terre. C'est remettre de la terre autour de votre pivoine pour que votre vie spirituelle puisse s'épanouir, pour que votre vie de tous les jours puisse s'épanouir sans condamnation. Alors, qu'est-ce que c'est que la justification? Qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce que c'est que la conversion, la nouvelle naissance? Est-ce que c'est le pardon des péchés? Oui. Est-ce que c'est le pardon grâce au sacrifice de Christ? Oui. Est-ce que ça n'est accessible que par le moyen de la foi? Oui. Et on pourrait encore en dire. Mais aussi, et surtout, le salut, le fait d'être sauvé, la justification, c'est une transformation. Tu as reçu le Seigneur Jésus, tu es passé de la mort à la vie. C'est fait. Tu ne peux pas repasser de la vie à la mort et puis de la mort à la vie. Non. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la mort à la nouvelle naissance. Tu es une nouvelle création. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, vis ta vie en tant que nouvelle création que tu es. Vis ta vie dans la foi, que tu es environné, que tu baignes dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Seigneur, qui t'a tellement aimé, qui s'est donné pour toi, et qui se réjouit que tu t'approches de lui, qui est tellement heureux quand tu vas lui demander pardon, parce qu'il a du plaisir à te pardonner et à te relever. Et lorsqu'il t'arrive de te lamenter sur ton état spirituel parce que tu te trouves sec, lorsque tu constates tes échecs, tes fautes, mais ne remets pas des cailloux autour de ton cœur, arrose ta terre. Arrose ta terre. Vis ta vie avec son lot de réalité dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Et si tu n'as encore pas expérimenté ce moment stratégique où ton cœur dit oui et amen au Seigneur, c'est le moment de le faire. Si le Saint-Esprit est en train de te dire, mais bien sûr que ces choses sont vraies, alors reçois-le, accepte-le. Reçois-le maintenant, ce n'est pas compliqué. C'est juste de le signifier au Seigneur, de le dire au Seigneur, et ensuite d'aller témoigner à quelqu'un pour lui dire, mais voilà ce qui s'est passé pour moi. Verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, par les cailloux, Christ est donc mort en vain. Voilà le cœur de la doctrine de Dieu, de la justification, du salut par la foi et par la grâce. Voici le cœur de l'Évangile. Voici la vérité de l'Évangile. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il y a une transformation d'identité, une récupération d'identité d'enfant de Dieu. Et nous ne pouvons rien y ajouter. Seigneur, merci pour ta grâce, incomparable. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu as faite en nous, une œuvre que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est toi qui appelles, c'est toi qui nous appelles, qui appelles nos consciences, qui appelles nos cœurs. C'est toi qui nous attestes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est toi qui attestes dans nos consciences qu'il est mort à la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité. C'est toi qui attestes que nous sommes passés de la mort à la vie. Et je te remercie pour cette grâce immense, parce que nous n'avons rien à y ajouter, si ce n'est d'ouvrir nos mains, d'ouvrir nos cœurs pour te recevoir pleinement. Seigneur, je te demande de nous toucher, chacun d'entre nous, pour que nous puissions comprendre à l'intérieur, comprendre dans notre ventre, dans nos tripes, dans notre personne profonde, qui nous sommes en toi. Je te demande, Seigneur, que plus personne dans cette Église ne doute de son salut. Je te demande que plus personne n'essaye de gagner ta faveur. Je te demande que plus personne n'essaye d'ajouter quoi que ce soit pour se sentir digne, pour enlever le mépris ou quoi que ce soit. Je te demande que chacun puisse vivre dans la foi au Fils de Dieu. Tu nous as tellement aimés, tu t'es livré toi-même, volontairement, pour chacun, chacune d'entre nous. Alors je te demande que ta grâce nous atteigne, que ton esprit convainque nos cœurs, pour que tu ne sois pas mort en vain. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fait en sorte que tu sois mort en vain. Pardon, et merci pour ton pardon, et merci pour ta grâce. En ton nom puissant Jésus. Amen.